Radio Foot International, Annie Gasnier.
Bonjour et bienvenue dans Radio Foot International, dans notre studio ici à RFI, pour évoquer évidemment la planète football, celle qui nous passionne chaque jour. Et cette première ligue anglaise, sous le choc, la mort accidentelle du propriétaire de Leicester City, ce club sacré champion en 2016. Des jours sombres pour les Foxes qui pleurent leurs bienfaiteurs. Et nous évoquerons le rôle de ce milliardaire thaïlandais dans le football anglais. Nous évoquerons aussi les invaincus de ce championnat, Citizens, Reds et Blues, qui poursuivent leur route en tête sans perdre, alors que les Français mancuniens Pogba et Martial permettent à Manu de rester au contact. Anthony Martial, notamment, surprenant buteur, devenu sauveur de José Mourinho. Julien Lopetegui part, Sebastian Solari arrive sur le banc des Merengues. La Casablanca a renvoyé hier sans élégance son entraîneur qui a remercié lui le club avec élégance. Élégance, pas vraiment le mot pour caractériser la première conférence de presse de son successeur. Nous entendrons la voix du quadra argentin Solari. Les Nerazzurri, deuxième de la Serie A, au prix d'une série de 6 victoires consécutives, l'Inter Milan se positionne entre la Juventus et Naples, à la chasse au titre bien sûr. Revoilà donc les interistes sur le podium, désormais sous pavillon et président chinois. Et pour évoquer ces sujets, aujourd'hui nous avons notamment Hervé Penaud, notre confrère de l'équipe. Bonjour Hervé.
Oh, bonjour à tous, quel plaisir.
Face à vous, Monsieur Philippe
Doucet. Ah oui, bonjour Madame Philippe. Annie.
Il a attaqué l'émission. Hervé,
il
c'est
se chauffe,
parti.
En loge, il se chauffe la voix.
Hein,
ah,
ouais, ouais.
Savoir. Ah bah il faut. Ouais,
ouais. Et puis Salim Gombongali qui va essayer de départager ces deux messieurs. Bonjour Salim.
Je ne sais pas si je vais réussir. Bonjour Annie, bonjour à tous.
Je compte sur vous Salim. Et puis Thomas Saint-Léger, bien sûr. Bonjour Thomas.
Bonjour Annie, bonjour tout le monde.
Feliz cumple aujourd'hui, on pourrait le dire. Feliz cumple agno à Diego Maradona. Oh. 58 ans aujourd'hui. Wow. Et Diego Maradona, il a beaucoup d'importance pour Radio Foot International parce que la première émission, c'était un 1er novembre en 2010. Eh bien, nous avions dit bon anniversaire à Diego Maradona. Il avait alors 50 ans, logiquement. Et donc, il a une certaine importance et je vous expliquerai pas tout pourquoi exactement.
Et puis on connaît le réfé, il veut bien aimer Maradona, on le sait ça.
Lui aussi, bon anniversaire, mais c'est pas maintenant. Radio Foot, c'est parti.
Avant qu'il ne soit propriétaire, Leicester était une petite équipe qui espérait accéder à la Première Ligue. Aujourd'hui, le club s'est établi dans l'élite du foot anglais. Nous avons gagné le titre, joué la Coupe d'Europe, donc il a apporté beaucoup à l'équipe et aux fans. Et bien plus encore, il a investi dans les hôpitaux de la région. Il a donc fait bien plus que la plupart des propriétaires de clubs de football.
Il ressemblait davantage à un supporter qu'à un businessman. Et il faisait partie de la foule.
Quand il a racheté le club, on n'était rien. J'ai enlevé mon écharpe sur laquelle est écrit champion, car c'est grâce à lui tout ça. C'est lui le champion.
Le titre de champion d'Angleterre en 2016, tellement fêté par les supporters. Il avait offert sa légitimité aux propriétaires de Leicester City. Les Foxes avaient remporté une couronne si convoitée au bout d'une incroyable saison et cela les avait rendus populaires en Grande-Bretagne, mais aussi bien au-delà. L'accident d'hélicoptère qui a coûté ce week-end la vie au milliardaire thaïlandais et à 4 autres passagers a causé beaucoup de peine. Les déclarations se sont multipliées, notamment les messages sur Twitter. Il y a eu d'abord cet hommage dans le rond central du King Power Stadium de Leicester hier, d'où avait décollé l'appareil. Claudio Ranieri, l'entraîneur des Foxes, champion en 2016, s'est dit très secoué par la nouvelle. Il raconte même, il venait dans le vestiaire uniquement pour dispenser des gentillesses, jamais pour vous reprocher quoi que ce soit. C'était un homme touché par la grâce, toujours joyeux, avec un éternel sourire qui éclairait son visage et il rendait meilleur tous ceux qui l'approchaient. Voilà pourquoi hier soir d'ailleurs, Riyad Mahrez, l'ancien de cette équipe de 2016, lui a dédié le but qu'il a inscrit dans le stade de Wembley.
Ce n'est pas facile de vivre ce genre de choses. Le président était quelqu'un de très spécial pour moi. J'ai passé 4 ans et demi et j'ai beaucoup de souvenirs avec lui. C'était vraiment quelqu'un de bien. Je suis très très triste. C'est pourquoi quand j'ai marqué, j'ai levé mes mains au ciel pour lui. Il a beaucoup fait pour moi et Lester. Il était comme un père. Il était très, très spécial pour nous.
Ce propriétaire était comme un père pour les joueurs, dit Riyad Mahrez. Mais Thomas, il avait aussi fait quelque chose d'énorme pour ce club et pour ses supporters en propulsant le club vers le haut.
On l'entendait dans les mots des supporters qu'on a pu entendre tout à l'heure. Quand il reprend ce club, certains disent on n'était rien. C'est vrai qu'il végétait à l'époque en deuxième division, plutôt dans les profondeurs du classement. Et puis progressivement, cette montée en 2014, l'apogée, le titre en 2016, Ranieri comme entraîneur, Vardy, Mahrez, Kanté, cette époque-là et ce titre totalement inattendu avec une gestion qui est finalement assez éloignée de la gestion des nouveaux propriétaires qu'on voit arriver dans beaucoup de clubs, notamment en Angleterre. C'était pas quelqu'un de très flamboyant, pas d'achat forcément spectaculaire, plutôt une gestion de bon père de famille, je dirais, je sais pas si ce sera confirmé par ceux qui connaissent peut-être mieux la Première Ligue que moi, mais il avait peu d'extravagance finalement. Sa seule coquetterie, de ce qu'on en dit, c'était de prendre cet hélicoptère pour quitter le stade et pour y aller également. Elle lui aura été malheureusement fatale.
Salim,
c'est vrai qu'il était très proche des supporters et j'ai même envie de dire de la ville. Alors on a entendu les supporters évoquer effectivement les investissements qu'il a pu faire dans les hôpitaux locaux. Il y avait également un supporter qui, au lendemain de ce drame, expliquait face caméra chez nos confrères de Sky, qui expliquait qu'il y avait eu un accident l'année dernière, en l'occurrence une explosion dans la ville de Leicester, avec une personne qui avait perdu son épouse et ses deux enfants. Et le propriétaire de Leicester, de sa poche, alors qu'il ne connaît pas du tout la personne, est allé le voir, est allé lui donner d'argent en lui permettant, l'aidant justement à se relever justement de cette perte forcément douloureuse de cette maison, etc. C'était aussi ça, au final, le propriétaire de Leicester, Vishal Srivaddhanaprabha, c'était d'être proche justement de ses supporters. On avait vu par exemple quelques extravagances qui étaient évidemment subtil, lors de ses 60 ans, il avait offert à tous les supporters une bière et également une tourte, en l'occurrence là-bas c'est très apprécié, ou également il avait offert à 60 personnes, 60 supporters, un abonnement annuel au club, voilà, parce qu'il avait 60 ans. C'est des petits trucs, mais qui faisaient qu'il attirait forcément la sympathie des supporters, et même j'ai envie de dire de l'Angleterre, puisqu'au final, vous n'avez jamais entendu un autre propriétaire, un autre club, critiquer au final le propriétaire de Leicester. Mmh.
Alors il avait le football comme passion, il avait aussi le polo, les courses, quand il allait à Londres, mais c'est vrai qu'il avait une fortune énorme faite dans les magasins de duty free de Thaïlande.
Exactement, voilà, King Power, c'est vrai que c'est une marque et une société qui n'est pas connue en Europe, mais qui l'est énormément en Thaïlande, puisque c'est lui au final qui, avec sa société, gérait toutes les zones de duty free des aéroports de Thaïlande.
Il a le monopole. Hein.
Et il a le monopole jusqu'en 2020, donc c'est pour ça qu'il a pu faire sa fortune ainsi, et c'était la 7e fortune de Thaïlande.
Philippe, c'est quelqu'un donc qui avait apporté quelque chose aussi au foot anglais, dans ces clubs qui de plus en plus se vendent à des intérêts et de plus en plus asiatiques.
Oui, effectivement, c'est assez rare. C'est-à-dire que la plupart des présidents en Angleterre sont ultra discrets. Bon, ils l'étaient aussi à sa manière. Mais d'habitude, ils sont ultra discrets. Il y a des tas de clubs dont on ne connaît pas le président. On ne connaît pas le nom du président d'Arsenal, de Chelsea ou autre. On ne sait pas qui est le président. On sait l'actionnaire, souvent. Et encore pas toujours. Mais on ne connaît pas les noms des présidents. Et donc, ça veut dire aussi que c'est un football qui n'est pas orienté sur ce côté-là. Et lui, en tant qu'Asiatique, a sans doute senti qu'il avait besoin de faire plus que d'autres qui sont uniquement, si j'ose dire, des investisseurs, qui investissent dans des clubs, qui revendent, qui achètent, qui revendent les clubs, etc. Lui, visiblement, il était investi davantage. Donc, en ce sens-là, oui, il avait apporté quelque chose. Bon, évidemment, ça a été magnifié par le titre absolument incroyable de 2016, qui est quelque chose d'unique dans la période actuelle. Aucun club de ce calibre-là ne peut être champion. Donc, c'était absolument magique, évidemment. Donc, ça a été magnifié par ça. Mais Et Salim le confirme, je crois que c'était vraiment réel. Il était un peu à part dans cette galaxie de propriétaires fortunés qui investissent plus qu'ils ne font des choses pour le football anglais en particulier.
Hervé.
Et le prolongement, c'est le fils finalement. C'est que visiblement,
voilà, c'est
le fils qui devrait reprendre la présidence, ce qui veut dire qu'il y avait un côté familial.
Il a quatre enfants d'une trentaine d'années, mais il y en a un qui était déjà vice-président du club, donc déjà investi à Leicester City.
Oui, parce que on est obligé de parler de l'après, hein. On a parlé du présent.
Il va battre le record du président de l'Inter, qui a 26 ans.
Ah, il a 32 ans.
Il est trop vieux.
Un vieillard. Mais c'est vrai, parce que aujourd'hui, on a parlé de ce qui se passe aujourd'hui, et puis tous les hommages n'étaient pas circonstanciels. On a vraiment l'impression que
que c'est, il y avait vraiment un amour autour de cet homme-là. Mais maintenant, bien sûr, faut penser à l'après. Que va devenir le club? Alors ça, on ne sait pas sur le terrain, parce que les joueurs ont été terriblement touchés. Alors parfois, c'est un ressort psychologique qui vous permet de puiser. Puis parfois, ça peut être très difficile à accepter comme situation. Claude Puel, les joueurs dont il était très proche. Et puis le club lui-même. C'est-à-dire que bon, lui, il avait cette passion du football. Est-ce que son fils aura la même passion? Visiblement, oui. Donc c'est pour ça que ça peut être intéressant. C'est-à-dire qu'il va y avoir cette forme de continuité dans la présidence. Donc voilà, maintenant, on verra la suite. Mais c'est vrai qu'il peut pas y arriver quelque chose comme ça sans qu'on se pose des questions sur l'après.
Sur le futur du club. Salim, vous avez une idée de cela? Alors, Hervé dit, les joueurs auront sûrement du mal à s'en remettre. Bah, il y a déjà un match qui a été reporté pour la peine des joueurs.
Respect, et puis, disons-le clairement, je pense pas que les joueurs avaient les jambes, tout simplement, avaient la tête pour pouvoir jouer cette rencontre. Donc la Ligue a évidemment reporté cette rencontre. En jeune, pareil, en l'équivalent de la Grand Bardella, également la rencontre a été reportée de manière logique. On veut laisser les esprits un peu se poser, forcément, après ce drame. Mm-hmm.
Une pensée, en tout cas, bien à Radio Foot pour ce club, et aussi l'un de ses membres, Jackie Bonnevet, l'adjoint de Claude Puel, qui travaille aussi dans ce club. Si Riyad Mahrez a marqué hier soir, c'est parce que les Citizens jouaient à Londres contre les Spurs sur un terrain, alors on va dire un peu pourri.
Sur un quoi?
Un terrain. D'accord.
On savait pas ce que c'était hier.
La photo est extrêmement impressionnante, hein, Salim.
Ouais, il faut rappeler effectivement pourquoi ce terrain a été si abîmé. C'est que la veille, il y a eu une rencontre de football américain, puisque le championnat de foot américain délocalise une ou deux rencontres par saison en Angleterre, en l'occurrence à Wembley. D'ailleurs, à partir de la saison prochaine, il y aura aussi des rencontres à White Hart Lane. Hein. Ouais, c'est déjà absolument négocié également.
Alors pourquoi? Donc ça va se reproduire, c'est ça?
Ça va se reproduire. Le souci, c'est que ce qui devait pas se produire, c'est qu'il y ait un match de foot américain et dès le lendemain un match de foot anglais. Tottenham devait à la base déménager depuis plusieurs mois à White Hart Lane, depuis plusieurs semaines, pardon. Le problème, c'est que le déménagement prend du retard, ce ne sera pas avant début janvier. Conséquence, le match de foot US était déjà prévu depuis longtemps, vous pouvez pas faire autrement, donc enchaîner les deux matchs, conséquence, la pelouse avec ce logo de foot US, c'est quand même une très mauvaise image, même pour la première ligue.
Il y a le logo et les repères qui existent dans le foot américain.
C'est une concurrente qui, au final, avait sa publicité pendant un match de Première Ligue.
C'est juste curieux que la Première Ligue n'ait pas changé le calendrier. En voyant ça, en se disant, bon ben, on ne met pas le match le lundi, on le met avant. Mm-hmm. Mais peut-être que la NFL, de par son accord avec Wembley, avait dit non, les trois jours avant, il est hors de question.
Eh oui.
Et du coup, la Première Ligue était coincée.
Le problème, c'est qu'il n'y avait pas beaucoup de dates de dispo. Eh parce oui, que si vous le mettiez avant, il y avait la Ligue des Champions et l'Europa League aussi, qui coinçaient de l'autre côté.
Non, mais je veux dire, on aurait pu le mettre le samedi, la veille, mais oui, visiblement, la NFL doit avoir un contrat avec Wembley en béton.
Totalement.
Pour habiller le terrain, etc.
Et les calendriers anglais sont particuliers, il ne faut jamais l'oublier. Parce que les calendriers anglais, alors on les connaît jusqu'à la fin de la saison, quasiment.
J'exagère
un peu, mais c'est un
là, peu, c'est un peu excessif. Janvier, déjà, c'est pas
mais,
mal, ouais.
Mais ça veut dire qu'on les connaît très longtemps à l'avance, ouais. Justement pour la vendre, pour le vendre à l'étranger. C'est-à-dire que chacun sait que le lundi à telle heure, il y avait Tottenham Manchester City.
Alors en tout cas, on a assisté à une 8e victoire pour les hommes de Guardiola qui ont remporté leur match grâce donc à ce but unique de Mahrez, suffisant pour conforter leur première place, la reprendre d'ailleurs à Liverpool qui avait aussi gagné. Finalement, Manchester City, Liverpool, Chelsea, qui n'ont pas perdu au cours du week-end, plus Tottenham et Arsenal, hein, si je ne me trompe pas, ça fait 5 équipes en 5 points dans le top 5. Résultat, Jürgen Klopp, ça a l'air de l'amuser, parce que lui, il a dit c'est incroyable que cette équipe possède un si grand nombre de points, ce qui rend la compétition encore plus intense, comme si elle avait besoin de ça. Est-ce que c'est quelque chose d'exceptionnel que connaît la Première Ligue ces jours-ci, Philippe?
Ça ne devrait pas l'être, puisqu'il y a un véritable top 6. Il y a 6 très grands clubs, très gros budgets, même Tottenham est un peu en dessous, mais enfin, globalement, il y a 6 gros budgets, 6 grandes équipes en Angleterre. Donc, c'est tout à fait logique. C'est vraiment le championnat et le football qui est planifié, si j'ose dire, pour que, effectivement, il y ait un équilibre le plus complet possible. Les droits télé sont distribués de manière très égalitaire pour arriver à cela. Donc, c'est une vraie réussite pour ce championnat. Après, la petite nuance, c'est que ça fait quand même des années et des années que les clubs anglais ne sont pas compétitifs en Ligue des Champions. C'est pas la seule raison. Je veux dire, cet équilibre recherché n'est pas la seule raison, mais c'est un des petits critères qui fait qu'on ne cherche pas à avoir des budgets, un club à 1 milliard et qui expose tout le monde. C'est pas l'objectif avoué.
Oui, et puis, Hervé. Tout à fait. Pour prolonger, quand on dit qu'en France, justement, il n'y a pas assez de concurrence, mais parfois trop de concurrence, un petit peu, tue les compétitions européennes, parce que la fatigue, le fait de jamais savoir ce qui est, de quoi va être fait le lendemain, alors qu'en France, évidemment, on pouvait facilement changer de joueur un week-end pour le Paris Saint-Germain, sachant qu'ils vont avoir un match de Ligue des Champions le mardi ou le mercredi, même 4 ou 5, même 6 ou 7 éventuellement, et ça pose pas d'énormes problèmes, ce qui est quasiment impossible dans le championnat d'Angleterre. Et puis, il y a toujours, qu'on le veuille ou non, c'est culturel et on l'adore d'ailleurs, ce fameux Boxing Day, qui fait qu'à un moment peut-être que, justement cette année ça va un peu changer, hein, puisqu'il va y avoir les 2 semaines en janvier, mais qui a peut-être été l'élément aussi perturbateur pour les résultats des clubs anglais, sait-on jamais. Un petit repos en plein hiver aurait fait du bien peut-être à certains clubs.
Salim, en tout cas, ni City, ni les Reds, ni personne ne veut perdre un point en route en ce moment. C'est vraiment une émulation chaque semaine.
Hein. Exactement, c'est chacun, dès qu'il y a une équipe qui joue et qui gagne, l'autre doit lui répondre et lui répond comme il le faut. Hier, City en plus a
comme en France, quoi.
Quasiment. Ah non, je c'est vrai que hier City, pour le coup, il y avait de la pression forcément sur les épaules de City puisque vous affrontiez quand même Tottenham. City qui a vraiment tellement bien démarré la partie en prenant à la gorge cette équipe de Tottenham, en pressant extrêmement, en marquant très rapidement, donc le fameux but de Riyad Mahrez. Et City a eu les épaules. Alors, par séquence, c'est vrai que Tottenham a eu des opportunités, des grosses opportunités aussi. Mais c'est vrai qu'hier, on a vu un très beau City qui même aurait dû marquer un deuxième but par David Silva. On sait même pas comment il l'a fait pour le rater. Mais
ça lui arrive.
Mais ça peut arriver.
Il n'a pas tiré.
Il a pas tiré.
Il a juste pas tiré.
Mais au final.
C'est un nouveau concept.
Au final, c'est le jeu de Guardiola. Un jeu de passe. Vous ne tirez pas, vous passez le match.
Mais c'est vrai qu'au final, on le voit semaine après semaine. Et la semaine prochaine, par exemple, il y aura un nouveau test. Arsenal-Liverpool. Là, on verra si Liverpool pourra répondre à Manchester City. Enfin, ça fait partie de ces trucs. Chaque semaine, on attend la réponse de l'autre. Quoi.
Et puis alors un énorme Sadio Mané, hein, puisque pour nos auditeurs africains,
alors,
faut en parler.
J'y vais.
Belle passion. C'est ça, les grands esprits se rencontrent.
Évidemment, Hervé, surtout vous, je connais votre passion pour les joueurs africains. Mais si les Reds effectivement ont conservé cette invincibilité, eh bien c'est parce que d'abord victoire facile sur Cardiff, ouais. 4-1. Alors j'ai lu qu'il y avait les statistiques, hein, c'est 85% de possession de balle pour les Reds en première mi-temps.
Exactement, une domination face à une équipe qui, bon, sera avec de grandes possibilités entre la 17e et la 20e place, hein, à l'issue de la saison.
Ah, ils peuvent être 17e quand même.
Cardiff.
Oh, ah, on sait jamais. C'est vrai que c'est très très faible Cardiff. Et donc Liverpool en a parfaitement profité. Salah qui marque, Mané qui marque. Enfin, tous les cadres de TH, Shaqiri qui marque un but magnifique en rentrant. Enfin bref, c'était nickel.
On se moque, mais il y a assez peu de cartons en Angleterre, malgré tout, même si Cardiff est objectivement faible. Si vous les regardez jouer, c'est assez faible. Il faut bien le dire. Mais malgré tout, c'est l'équilibre qu'on évoquait, il va jusqu'en bas. C'est-à-dire que les matchs sont serrés. Crystal Palace a accroché Arsenal. C'est pas évident. Oui. Toutes les semaines, les matchs sont difficiles.
Alors Hervé, justement, ce trio magique là qu'on a vu l'année dernière pour une équipe qui arrivait en finale de la Ligue des Champions, Firmino, Mané et Salah, eh bien, on a l'impression, en tout cas les chiffres le disent, qu'ils reviennent à leur meilleur niveau. Alors, il y a un doublé de Sadio Mané, le Sénégalais. Et puis Salah a marqué son 7e but. Il a aussi fait une passe décisive, ce qui en fait 4 en 10 matchs. L'Égyptien, le Sénégalais et puis le Brésilien, on revient à l'année dernière.
Alors pas tout à fait. On n'est pas encore au niveau, à mon avis, du trio au top, parce qu'on a un Sadio Mané qui est au-dessus. Je pense que Sadio Mané aujourd'hui est au-dessus des trois autres. Salah a mis un peu de temps pour se remettre de sa incroyable saison et de sa blessure. Oui, parce qu'il faut pas l'oublier.
C'est déconvenu, je pense, on peut dire.
Oui, c'est déconvenu.
Blessure, puis la blessure.
Coupe du monde qu'il a faite sur une jambe, quasiment.
Oui, et puis toutes les histoires autour, voilà, qui l'ont beaucoup perturbé.
Il était pareil. Il était pas prêt pour jouer la Coupe du Monde, mais il a quand même joué parce que c'était Salah. Donc après, il a fallu qu'il revienne. Il a eu un petit coup, d'oubli du collectivisme de Liverpool. Il jouait un peu pour lui parce qu'il a voulu marquer des buts un peu vite alors qu'il avait un peu plus de mal. Mais tout ça s'est réglé, s'est rentré dans l'ordre. Il est le Salah qu'on connaît. Firmino a un autre rôle. Hein. Firmino a le rôle de celui sur lequel on va
on
s'appuyer,
compte.
Qui est un petit peu moins flamboyant, mais qui est un joueur ultra utile. Et puis Sadio Mané qui fait un début de saison incroyable parce que non seulement il marque, non seulement il est utile, et puis il bosse. C'est-à-dire que c'est peut-être celui qui est, alors Firmino aussi, hein, Salah un petit peu moins parfois, mais Sadio Mané, franchement, fait un début de saison fracassant.
Juste, j'apporte une précision sur Mohamed Salah. C'est vrai que depuis le début de la saison, il a beaucoup raté, hein, Hervé l'a bien dit, mais en 10 journées de championnat, il a marqué autant que la saison dernière.
Absolument,
au final. Donc, c'est vrai que.
C'est pour ça que je disais, les statistiques disent forcément pas tout, mais en tout cas, on a l'impression qu'il revient.
Et c'est pour ça qu'on le précise, c'est que, au final, donc, il a beaucoup raté, et malgré tout ce raté, il est au même niveau que l'an dernier.
Mais dans un Liverpool plus fort que l'année dernière.
Ouais. Tout à fait.
Attention, il y a
un
aussi,
banc qui est aussi beaucoup plus fort.
Plus de bancs, la présence de certains nouveaux qui sont arrivés et qui ont aidé aussi. Je pense à Keita, alors pas en ce moment, évidemment, mais Naby Keita fait du bien aussi dès le début de saison, dès qu'il est arrivé.
Et à noter aussi sur Liverpool Cardiff, ce qui est intéressant, c'est Fabinho. C'était sa première titularisation en championnat. Oui. Il avait été en Ligue des Champions. Il avait déjà été très bon en Ligue des Champions face à l'Étoile Rouge. Klopp l'avait salué puisque Klopp l'avait mis dans un double 6. En fait, il était en poste de milieu défensif avec un autre 6 à côté de lui. Il a refait la même face à Cardiff et il a été une nouvelle fois très bon. Donc Fabinho, alors, je vais pas dire qu'il va être titulaire demain, évidemment, mais c'est au final une vraie solution de remplacement maintenant pour Klopp. Klopp le sait encore plus.
Liverpool est beaucoup plus complet qu'il n'était jusqu'alors. Jusqu'alors, il fallait vraiment que tout le monde soit là, qu'il n'y ait pas aucune blessure. Maintenant, Liverpool est beaucoup plus complet, indiscutablement.
Oui, et d'ailleurs, certaines journées, notamment la saison, pas l'année dernière, mais celle d'avant, il avait beaucoup senti que quand Mané, par exemple, n'était pas là, il y avait un vrai problème dans l'équipe. Exactement. Donc, peu à peu, Jürgen Klopp façonne cette équipe. Les Red Devils, eux, eh bien, ils peinent encore à se rapprocher du haut du tableau, mais quand même, ils sont certes à 9 points, mais ils sont 8e. Ouais. Voilà. 8e de cette 10e journée, grâce alors à une victoire, eh bien, dans ce face-à-face du nord de l'Angleterre, que ce Manchester United Everton, 2-0, signé eh bien, par deux Français de l'effectif, Paul Pogba qui marque d'abord le pénalty provoqué par Anthony Martial, et puis Anthony Martial qui lui marque sur une passe de Pogba, un beau duo. Anthony Martial, on a l'impression qu'il revient au galop, on va dire, Thomas.
Ouais, il revient de loin surtout, parce que sa meilleure saison avec Manchester United, finalement, c'était la première. Il avait inscrit 18 buts, donc 2015-2016, ça commence un petit peu à dater. Ensuite, il a stagné autour de 10 buts par saison. Là, il en est à 5 en 11 matchs, donc il est en avance, en tout cas au niveau statistique, sur son tableau de marche. Et puis, il y a surtout l'impression laissée. Il a été un petit peu tensé en début de saison par Mourinho. On a l'impression qu'il répond présent, qu'il est impliqué dans les matchs qu'il dispute. Et puis, l'autre petite bonne nouvelle, c'était pour Monaco, puisqu'il devait marquer 25 buts en championnat pour qu'un bonus soit déclenché. Il a fait gagner 10 millions d'euros à Monaco. Voilà.
Et ça en avait besoin.
Monaco gagne pas de points, mais gagne de l'argent.
C'était la prime de Thierry Henry.
En 3 ou 4 ans, il y avait quand même de bonnes chances qu'il arrive à 25 buts. Quoi. Enfin,
sauf s'il l'avait vendu.
Oui, sauf s'il l'avait vendu, absolument.
Philippe, Anthony Martial, est-ce que c'est enfin peut-être reconnu la reconnaissance ou de sa valeur? Alors, c'était une valeur marchande au départ. Est-ce qu'il y a une grande valeur sportive?
Elle a été reconnue très vite, sa valeur, au contraire. Avant même, je dirais, qu'il ait vraiment percé au plus haut niveau. Oui, un peu trop tôt, comme on sait un peu trop le faire en France, mais pas que nous, puisque visiblement, Manchester United lui-même s'est affoncé sur ce réel talent, mais toujours un petit peu vite. C'est-à-dire que c'est quand même des joueurs qui sont... Enfin, je dis des joueurs parce qu'on en a plusieurs dans ce genre-là. Dembélé, d'une certaine manière, est un petit peu dans ce genre-là. C'est des joueurs pas complètement finis, qui ont un talent fou, qui sont capables de gagner un match, peut-être deux, et puis le suivant, c'est deux mois après, quoi. Bon, voilà, c'est des talents qui sont pas complètement finis, mais ce sont des vrais talents naturels, et Martial en fait partie. Il me semble que Mourinho ne l'a peut-être pas aussi très bien exploité, dans le sens où...
Ni très bien traité.
Ouais, parce que je crois qu'il alterne beaucoup, quoi. Il aime bien, il a une tête de turc de temps en temps. Alors là, c'était lui. Puis du coup, il a sorti Rashford. Maintenant, en ce moment, c'est Rashford qui a la tête dans le sac. Et puis après, il va ressortir Lingard. Puis après, il va recondamner Martial. Donc c'est une gestion un peu particulière. Je pense pas que ça aide à l'éclosion de ce genre de talents qui ont besoin de régularité.
Exactement.
Leur problème, c'est la régularité.
Ça aide pas, mais ils sont quand même sur le point de re-signer son contrat Manchester.
Alors, United veut le faire. United veut effectivement le prolonger. Après, est-ce qu'Anthony Martial, lui, veut prolonger son contrat à Manchester United? Ce n'est pas évident, en revanche, pour le Français, parce que justement, il y a cette fameuse situation et gestion de la part de José Mourinho. À un moment donné, quand vous avez un entraîneur qui est capable de vous adorer pendant 2-3 mois et tout d'un coup capable de vous mettre sur le banc, voire même en dehors du groupe pendant un mois, vous dites, est-ce que je peux vraiment me développer et continuer à progresser sous ses ordres? J'ai peut-être pas envie forcément de poursuivre sous ses ordres. Donc, c'est très délicat. En fait, il y a beaucoup de choses qui sont évoquées. On va le dire très clair, ce sont des rumeurs de part et d'autre. Il n'y a rien de confirmé, il n'y a rien de clair à son sujet. Juste, je précise concernant Anthony Martial, vous l'évoquez, 5 buts marqués depuis le début de la saison. Par exemple, un Alexis Sanchez, depuis janvier, il est arrivé en janvier, il a marqué 4 fois. Donc,
c'est ceux qui sont écartés du moment.
Voilà, voilà. Lui qui est le joueur le mieux payé de Première Ligue, 20 millions d'euros. Mais voilà, Martial a réussi à faire beaucoup mieux.
Thomas. Il a semble-t-il, la confiance de ses coéquipiers. Je lisais une interview de Nemanja Matić qui disait Martial ne se rend pas compte qu'il est si fort que ça. Moi, si j'étais lui, je prendrais le ballon au milieu du terrain et puis j'irais jusqu'au bout pour marquer.
Hervé, si fort, mais on se souvient que Martial, donc cette découverte du côté de Monaco qui part chez les Reds, il est sélectionné en équipe de France, c'est 2016 et depuis on l'a pas revu.
Oui, il était déjà fort à Lyon, hein, faut pas l'oublier. Hein, il a permis d'ailleurs de combler les petits déficits lyonnais à l'époque, hein, parce qu'il est parti déjà assez cher, pas à Monaco, il avait 17 ans. Mais non, c'est un phénomène, tout simplement. C'est un phénomène. C'est-à-dire qu'on parle des Dembélé, des Mbappé. Non, mais parce qu'il est pas reconnu, parce que d'une certaine manière, il méritait d'être un peu moins reconnu que d'autres, parce qu'il a peut-être pas fait les efforts qu'il fallait. Et puis il a un petit problème, Martial. Moi, j'adore hein, comme joueur, mais il a un petit problème. Il a le body language. C'est quelqu'un. Ouais, on a l'impression qu'il est jamais heureux d'être là. Il sourit jamais, il fait un effort, il se replace. Bon, quand il a envie. Alors, il le fait, l'effort, mais il le fait avec tellement plus de fougue, tellement
il devrait prendre des cours avec Pogba, non?
Ouais, d'une certaine manière, faudrait qu'il fasse un peu d'acteur studio pour montrer ce que c'est aussi. Et mine de rien, dans le regard d'un entraîneur comme Mourinho, et même comme Deschamps, hein, faut pas se mentir.
Et des supporters?
Eh ben, ça fait bizarre, parce qu'on a l'impression qu'il fait pas exactement ce qu'il devrait faire. Alors, ce qui est génial dans cette affaire-là, je trouve, c'est qu'il a été tancé, effectivement, par Mourinho, il lui a répondu sur le terrain. Il a été, d'une certaine manière, tancé par Didier Deschamps, parce que le fait qu'il soit pas dans le groupe, c'est quand même aussi une sanction. Exactement. Alors que quand il est arrivé, je me souviens d'un match où j'étais au Danemark, il avait été excellent, parce qu'il a tout, il a une fluidité, une qualité, capacité pour éliminer, une puissance. Maintenant, il faut qu'il soit plus régulier, la régularité l'acquérir, j'espère, au fil des matchs. Il a poussé Sanchez, on parlait de Sanchez, sur le banc, parce que quand Sanchez est arrivé, tout le monde avait dit, oh, Martial, exact, c'est terminé pour lui. Ah, aujourd'hui, c'est Sanchez qui joue plus. Avec un entraîneur qui, au départ, vous a pas déplié le tapis rouge. Donc moi, ce que je trouve, ce qu'il est en train de faire aujourd'hui, c'est en train de montrer déjà à Mourinho qu'il peut être là. Ses déclarations d'après-match à Mourinho ont été assez dures, en plus, hein. Il a dit que, intellectuellement, physiquement, il avait pas tout compris, etc. Donc, une nouvelle fois, il est en train de le remonter. Ça vaut peut-être le remonter souvent. Peut-être que Deschamps va faire pareil, et j'espère qu'il sera dans la prochaine.
Hervé Penaud, c'est un peu notre Zinedine Zidane à nous, capable de faire des passes d'ess à tout le monde, parce que je voulais absolument parler de ça. Parce que, quand même, sur les deux derniers matchs, ça a un peu changé son body language. Justement.
Ah, bah,
notamment, mais, c'est bête, mais face à Chelsea, notamment lors de ce 2-2 où il a marqué dans cette partie à Stamford Bridge, quand il sort, on le voit. C'est bête, encore une fois, de dire ça, mais il sort avec le sourire. On voit José Mourinho avec qui il blague, notamment après la rencontre de ce week-end. On voit l'après-match et les interviews d'après-match avec Paul Pogba où il y a du sourire aussi. Ça change. Alors c'est un détail, mais ça compte.
Il y avait aussi beaucoup de sourires dans la tribune d'honneur de Old Trafford ce week-end. C'était assez amusant. Les jeunes footballeurs, vous vous souvenez de ces footballeurs de Thaïlande et leur entraîneur qui était resté coincé pratiquement un mois dans cette grotte? Eh bien, ils avaient été invités en Angleterre. Ils ont été invités du côté de Manchester, dans la tribune. Et bien voilà, ils ont réussi à assister à un match et à imaginer que là, cette fois-ci, c'était vraiment sorti.
Ah oui, c'était à l'air libre là.
De la grotte où ils se trouvaient. Allez, on change de direction en Europe et on part vers le sud. Il fait peut-être plus chaud, on va du côté de l'Espagne.
Merci Monsieur le Président et merci beaucoup au Real Madrid pour la confiance qu'il m'accorde. J'aborde cette responsabilité avec énormément de fierté et de force. Je me sens comme un membre de la famille du Real Madrid. Hier était la journée la plus compliquée de ma vie avec le décès de ma mère. Mais aujourd'hui est le plus beau jour de ma vie.
Quelle sombre année pour Julen Lopetegui, sélectionneur de la Roja, débarqué deux jours avant le début de la Coupe du Monde en Russie. Vous vous en souvenez, c'était en juin dernier. Et puis, parce que, alors débarqué parce qu'il avait été appelé par le Real Madrid pour diriger l'équipe, et puis son passage, malgré ce plus beau jour de sa vie, eh bien, qui aura été éclair 4 mois à la tête des Merengues. Une gifle, évidemment, ça fait mal, et Lopetegui n'aura donc survécu que 25 ou 26 heures. Ce 5-1 au Camp Nou, les dirigeants de la Maison Blanche ont publié hier soir un communiqué pour expliquer le renvoi de l'entraîneur. Alors, ils font pas tellement dans la dentelle. La direction estime qu'il existe une trop grande disproportion entre la qualité de l'effectif, qui compte 8 nommés au prochain Ballon d'Or, ce qui est une chose inédite dans l'histoire du club, et puis les résultats obtenus. Philippe Doucet, pourquoi cette violence verbale contre Julien Lopetegui? Pour cacher la forêt?
Oui, sûrement pour cacher la forêt. Puis, bon, on peut dire que depuis le début, de toute façon, le Real on a strictement rien à faire de Julien Lopetegui, parce que déjà, ils l'ont bâché médiatiquement. C'est quand même complètement de leur faute qu'il s'est retrouvé à la rue de la
et que l'Espagne fait une mauvaise campagne.
Parce que le Real avait juste besoin de communiquer. Puis à un moment, ils ont dit à Lopetegui, bon, bah, au fait, on va communiquer demain jeudi. Hein, on annonce que tu pars au Real. Ah oui, non, mais on n'avait pas dit ça. Oui, bah, tant pis. Tant pis, c'est comme ça. Et tu te tais. Et là, il continue. En gros, mais voilà, le Real est une institution extrêmement forte. C'est un immense club. On peut pas dire qu'ils aient toujours pris des gants avec les entraîneurs ou autres, ou même les joueurs. Hein. Franchement, c'est même Ronaldo dans son départ, Florentino Pérez, il lui a dit bon, si c'est comme ça à lui et à son agent Jorge Mendes, si c'est comme ça, foutez le camp et puis partez, etc. Mais, le Real est comme ça. Voilà, ils sont comme ça sans aucun égard.
Marca hier avait mis en énorme sur sa une. Ce n'est pas seulement de la faute de Lopetegui. Ce communiqué, on a l'impression que c'est que de la faute de Lopetegui.
Mais c'est honteux, franchement. Déjà, le type, alors il est viré du Real, il était content d'arriver au Real, il vient de rater une Coupe du Monde, il aurait peut-être pu être champion du monde, parce que attends, j'aurais bien aimé voir l'Espagne
bien
avec
sûr,
Lopetegui.
Il avait tout d'excellents autre... résultats comme
sait,
sélectionneur.
En 4 mois, en 4 mois, il passe du titre de quasi-favori de la Coupe du Monde à virer au Real. Quoi.
Et donc, en 4 mois, il a tout perdu. Alors, si je vous dis, ne le suivez pas, si vous donne un conseil, ne suivez pas ses conseils à Lopetegui. Surtout pas. Non, mais c'est terrible pour lui. Moi, je trouve la situation incroyable. D'autant plus que si on regarde les match quand même du Real, parce qu'il faut quand même s'attarder sur le contenu. Alors, ils perdent Ronaldo, ce qui change tout, mais absolument tout.
Vous avez perdu 50 buts.
Son papa était très inélégant, on peut dire. Enfin, il a dit ce que son fils peut pas dire. Et parce que quand il est recruté pour le Real, évidemment, Cristiano est encore là. Et il dit, ah bah oui, on lui a signé un contrat et après on lui enlève 50 buts.
Mais il a raison. Voilà. Mais il a 100% raison. C'est-à-dire que d'un bon match bien abouti sur le plan du jeu, il vous manque l'étincelle qui va marquer le but et qui change tout. Après, ça change le sens du match. Sur ce fameux classico, si Benzema met sa tête à 2-1, moi j'aurais aimé voir le match.
À 2-2.
Parce que franchement, à 2-2, surtout là, voilà. Mais rien que cette tête de Benzema, qui d'ailleurs au demeurant fait pas un mauvais match dans l'ensemble, Benzema, mais cette tête-là, il la met, il la décroise, il la met dans le but, 2-2, c'est plus pareil. Parce qu'on sent un Real qui monte en puissance et un Barcelone qui est plus en difficulté. Après, ça part un peu à volo et vous avez des erreurs individuelles majeures de cadre de l'équipe.
Ramos.
Et puis là, qu'est-ce que vous pouvez faire?
Ce qu'on a l'impression aussi, peut-être Salim, c'est que finalement, on se bouscule pas pour le remplacer. Dès dimanche, à la suite de ce 5-1, on murmurait un nom qui circulait déjà, qui est celui de l'Italien Antonio Conte. Et puis finalement, l'histoire a l'air de se dégonfler. Et puis, on a appelé. Alors, on va y venir après. Hein, cet intérimaire maison, mais quelqu'un qui vient de la Castilla, un peu à la manière Zidane, mais qui n'est pas Zidane. On a l'impression qu'on se bouscule pas en ce moment, parce que Philippe dit, c'est une grande institution le Real, mais en ce moment, elle a quelques failles.
Vous savez, voilà, vous avez des institutions comme la Juve, comme le Bayern, comme le Real, comme Barça. Forcément, lorsque vous êtes entraîneur, vous avez à coup sûr envie de les entraîner. Enfin, je le suppute. Mais vous arrivez.
Ça c'est sûr.
Voilà.
Mais je le suppute pas moi.
Voilà.
J'en suis sûr.
Mais là, vous arrivez après donc Zinedine Zidane. 3 Ligues des Champions remportées dans les conditions que l'on connaît. Vous arrivez après un Zidane qui est parti, après Cristiano Ronaldo qui est parti. Hervé l'a très bien expliqué. Aujourd'hui, vous arrivez avec une équipe qui, dans l'esprit de beaucoup de supporters, est celle qui est championne d'Europe la saison dernière. Sauf que c'est plus
du tout. Et celle d'avant
et
celle d'avant.
Exactement. Sauf que ce n'est plus du tout la même équipe. Donc, est-ce que vous avez vraiment envie d'avoir une équipe qui, au final, n'est pas la vôtre, puisque là, si vous arrivez en octobre, novembre, vous ne pouvez pas évidemment gérer le mercato de cette équipe-là. Est-ce que vous préférez pas plutôt attendre 6-7 mois et espérer l'été prochain et pouvoir gérer le mercato à ce moment-là?
14 jours, Philippe.
Non, Salim, ça concerne, c'est marrant parce que tous les gens dans la rue, tous les gens disent ça. C'est pas possible de passer après Zidane, faut pas prendre le risque. Mais attends, il y a 4 entraîneurs au monde, 4 ou 5,
bien sûr,
qui vont se dire Là, c'est peut-être pas le moment. C'est peut-être pas le moment. Ouais. Mais tous les autres, mais ils courraient au Real.
Oui, mais le problème, c'est que tous les autres ont les moyens.
Mais c'est peut-être pas le bon moment, mais tous ont envie d'entraîner le Real.
Mais
tous,
Conte, malheureusement, on tombe sur Conte, qui est l'un des rares qui peut peut-être dire non. Parce que lui, il a un tel palmarès, il se dit, bon, vu comment
non,
je suis.
Je pense qu'il peut dire non parce qu'il est pas fait pour ce club.
Voilà, c'est ça.
C'est une erreur. Ce serait une erreur qu'il y aille. Pour moi, je suis persuadé que c'est une erreur.
Pourquoi?
Parce que c'est pas du tout le moment et c'est pas l'entraîneur qu'il faut.
Mais t'as vu l'accueil de Ramos dans le vestiaire.
Vu l'accueil des joueurs.
Il a déjà prévenu. Hein.
Ah, il a déjà prévenu. Donc ça veut dire que
la meilleure solution, ce que le Real pourrait faire de mieux, c'est de laisser Solari jusqu'à la fin de l'année et Zidane revient après.
Bon.
Moi j'ai une idée.
C'est très simple.
Moi je prendrais Laurent Blanc. Zidane ne peut revenir que quand l'effectif sera changé. Il avait un pacte avec ces joueurs-là. C'est pour ça qu'il est parti. Il avait un pacte avec ces joueurs-là. Il pouvait pas changer le groupe.
Il y avait un problème avec Gareth Bale aussi.
Mais moi, je prendrais Laurent Blanc.
Non, mais Bale n'est pas un problème, il le vendait.
Ah, mais Laurent Blanc,
c'est
parfait.
J'ai osé suggérer ce nom hier,
parce que Laurent Blanc, lui, il a besoin de revenir. Laurent Blanc, il a une certaine image. Il a un palmarès, parce que vous pouvez pas.
Il
le problème
de
Lopetegui et tous ces gens-là, c'est qu'à un moment, il faut quand même représenter quelque chose. Benitez est arrivé, c'est celui qui a eu les meilleurs résultats quasiment en termes de points, nombre de buts, nombre de six marchés. Mais au bout d'un moment, les joueurs en voulaient pas. Benitez, il représente rien pour eux. Laurent Blanc, il est champion du monde. Mine de rien, c'est quand même important dans un vestiaire. Et il a une espèce d'aura, d'image qui peut, à mon avis, passer, parce que lui, il va pas arriver à la Schlag, on essaie de dire.
C'est un joueur du Barça.
Oui, mais il a été flagrant, c'était
un petit joueur, je pose la question.
Il est quand même pas quand tu penses Laurent Blanc, tu dis pas il représente le Barça.
Pour apporter de l'eau au moulin, il y avait aussi la double confrontation Real PSG époque Laurent Blanc. Le style Laurent Blanc avait beaucoup plu au Madrid. On se rappelle de cette scène où Cristiano Ronaldo vient lui murmurer quelque chose à l'oreille. À l'époque, on avait supputé.
Je viens à Paris.
Ça s'est évidemment pas fait.
En fait, viens au Real. 4 ans, quand j'y serai plus.
Alors en tout cas, 14 jours pour conforter Sébastien Solari ou pour mettre quelqu'un d'autre, cet ancien joueur du Real, époque Zidane, qui est-il, Thomas, finalement, Sébastien Solari?
Je crois que c'est Santiago. Oui, donc joueur argentin, vous l'avez dit, 5 ans joueur au Real Madrid. Il a d'ailleurs remporté la Ligue des Champions 2002, avant-dernière passe sur le but de Zidane, pour ceux qui s'en rappellent.
On est dans les stats précises.
C'est quand même super précis, voilà. Et puis, justement, je parle de Zidane, il suit un petit peu la même trajectoire que le Français, puisqu'il a entraîné pendant 2 ans la Castilla, donc l'équipe réserve du Real Madrid. La première saison, ça s'est moyennement passé, il termine 8e sur 20 de sa poule en Segunda B, c'est la 3e division. Ça allait un peu mieux en ce début d'année, ils étaient 4e après 10 journées. Voilà, Solari entraîneur néanmoins inexpérimenté au très très haut niveau.
Alors Solari inexpérimenté, donc on le connaît un peu mieux grâce à vous Thomas, mais même s'il a ce matin pris la parole pour la première fois, demain il y a un match à Melilla, il a dit qu'il se déplacerait avec de grands champions qui ont tout gagné ou presque, mais quand on lui a demandé avec quelle tactique, quelle stratégie, écoutez, il n'a pas fait dans la dentelle.
La idea es ir a Melilla mañana y jugar con dos cojones. Esa es la idea que tenemos.
Vous pouvez traduire, Salim?
Oui, mais on va y aller avec nous. Bip. C'est ça, c'est bien traduit.
Donc, c'est pas mal comme tactique de départ pour le premier match.
Est-ce que c'est une...
Quand Zidane est arrivé à la place de Benitez...
Il a dit ça?
Il a fait... Non. Non, parce que Zidane ne parle pas comme ça.
Mais oui, mais
il le pense, mais il le
est-ce
parle
est-ce qu'on peut parler comme
mais
ça au Real Madrid?
Non, mais le changement principal de Zidane, c'est qu'il a fait courir les joueurs. Les joueurs ne couraient pas pour Benitez, il les a fait courir pour lui. C'est tout. Après, il a mis Casemiro, il a fait un changement dans le 11, mais c'est tout.
Casemiro faisait déjà partie du 11 de Benitez.
Et tout le monde disait à l'époque, Benitez fait n'importe quoi, il fait jouer Casemiro.
Exactement.
Quand Zidane est arrivé, il a fait jouer Casemiro. Quel choix.
Mais cette petite phrase qui, évidemment, fera les choux gras pendant longtemps.
Il faut refaire courir les joueurs, les secouer un peu. Bah le Real c'est ça, hein, quand les joueurs s'endorment un peu. L'année dernière ils avaient fait un début de saison complètement pourri avec Zidane, complètement pourri.
En fait,
Ronaldo ne mettait pas un but.
Vous n'êtes pas candidat à être entraîneur du Real?
Non.
Parce que vous les feriez courir.
Lui aussi refuse.
En communication je pourrais me démerder, mais en entraîneur non.
Sauf que Solari n'a pas l'aura de Zidane pour faire courir un joueur. Zidane arrive sur un banc et il te dit cours.
Mais c'est une année, c'est horrible à dire, mais c'est une forme d'année transition pour le Real. C'est de toute façon, Zidane avait tout compris. À partir du moment où vous perdez Ronaldo, il sentait qu'il allait le perdre. À partir du moment où vous n'allez pas pouvoir réinjecter beaucoup d'argent, parce que le joueur qu'ils veulent, faut pas rêver, c'est Neymar. Et Neymar, il savait qu'il pouvait pas partir du Paris Saint-Germain. L'année prochaine, on peut en reparler. Peut-être que Neymar arrivera au
Neymar
Real.
Neymar ou Mbappé?
Le joueur le plus...
Ah, Mbappé, ils ont aucune chance.
Le joueur le plus important que le veut le Real, c'est ni Neymar ni Mbappé, c'est Santiago Bernabéu. Ils sont en train, ils ont un projet fantastique pour refaire le stade.
Hier, oui,
pour
oui.
refaire le stade. Et ça, ça coûte une fortune. Ils sont dans dans la situation.
Comme Jean-Michel Aulas, il y a quelques années.
La situation qu'a connue Arsenal.
Arsenal,
en disant, bon, avant de penser à mettre des joueurs à 400 millions, réfléchissons un petit peu. Avant de prendre un entraîneur qui va me coûter une fortune et que je vais peut-être virer dans 6 mois.
Et qui va le problème aussi de Perret, c'est qu'il va peut-être mettre son toit, mais il va prendre l'eau. Parce que, faut pas oublier que ce sont les socios qui votent quand même pour le président du club là-bas. Et si vous n'avez pas de résultat au Real, vous pouvez. Parce que le Real finit 9e ou 10e cette saison, s'il finit sans Ligue des Champions, ça peut grincer des dents.
Il vaut mieux leur payer des parapluies.
Non, mais Mbappé, je ne vois pas Mbappé, c'est impossible. Mbappé, Mbappé, c'est le projet du PSG pour les années à venir. Pour les 5, 6, 7 ans.
Le PSG n'a pas le projet, formidable.
Non, mais c'est bien, alors c'est que bien. Neymar, j'ai pas de certitude que Neymar ne revienne pas un jour en Espagne, évidemment.
Allez, un petit tour maintenant. Je vous propose de partir vers l'Italie. Perisic in area, il tentativo di versione Icardi. Maurizio Icardi. Vediamo cosa succede. Che l'arbitro concede gol. Ha segnato l'Inter. In area di rigore Icardi è solo una finta palla sul sinistro. Maurizio Icardi. Inter Amada, ce doublé d'Icardi, le buteur en forme de l'Inter Milan qui avait offert le derby milanais à l'Inter. Et puis voilà les Nerazzurri, aidés hier soir aussi par Brozovic, puisqu'ils ont gagné 3-0 au Stadio Olimpico de Roma. Voilà donc, c'était contre la Lazio, voilà donc cette équipe deuxième du classement italien, juste derrière la Juve, juste avant Naples. Matteo, j'allais vous appeler, s'il est mort l'Italie, ça arrive avec Matteo. Ça faisait longtemps de mémoire d'Interis qu'on n'avait pas vu ça.
Alors, en tout cas, à la fin de saison, parce qu'il faut se rappeler que l'an dernier, après 16 journées, ils sont premiers, invaincus.
Quelques jours.
Avant de s'écrouler ensuite. En revanche, c'est vrai que pour retrouver l'Inter sur un podium de Serie A, il faut remonter à la saison 2010-2011. C'était l'époque de donc Benitez sur le banc, Eto, Coutinho, Mota, Zanetti pour les joueurs. À cette époque-là, ils terminent second depuis 6e place, 9e place, 5e place.
Les années d'après, il y a Mancini quand même.
Oui, mais ils font 6e, 9e, 5e, 8e, 4e, 7e, 4e. Pas un seul podium de Serie A sur donc depuis cette saison.
Depuis l'époque Mourinho, Benitez.
Mancini, c'est avant Mourinho, alors. Je me trompe, pardon.
Possible. Pardon. Ah, il me semble qu'il revient
oui,
après.
Oui, non. Je crois. Peut-être, mais je crois. Enfin, la grande période où
Gasparini.
Il est...
ça veut tout dire aussi, parce que Philippe Doucet, c'est un peu notre Bible. Ouais. Et
à 10 ans après, c'est bon.
Non, mais plus sérieusement.
Et à l'échelle du monde, quelqu'un qui a écrit la Bible,
mais plus sérieusement, c'est dire que l'Inter, c'est vrai qu'on a, entre guillemets, un peu mis de côté cette équipe-là en Italie, par rapport à la Juve, même par rapport au Napoli, qui au final est devenue la deuxième équipe d'Italie dans l'esprit de beaucoup de gens sur ces dernières années.
C'était l'année dernière.
Non, je m'en rappelle plus. Mais c'est dire si on avait vraiment mis de côté cette équipe de l'Inter. Et là, depuis l'an dernier, notamment grâce à Icardi, c'est vrai qu'on recommence à redécouvrir encore plus cette équipe, aussi en Ligue des Champions. En Ligue des Champions, elle impressionne.
Exactement.
Elle a réussi à faire notamment une belle impression face à Tottenham. Même face à Barcelone, c'était pas ridicule non plus, mais il y avait des joueurs fantastiques en face. Mais l'Inter est redevenue une équipe intéressante.
Est-ce que c'est l'équipe qui, justement, va jouer un peu les troubles faits ces dernières années? Alors, on se souvenait, en préparant l'émission, il y avait la Roma de Rudy Garcia, qui, pendant un moment, avait essayé de ravir ce titre de champion à la Juve. Et puis, cet an dernier, c'était plutôt Naples. Est-ce que c'est le retour de l'Inter, selon vous, Hervé, avec ce Icardi qui est en grande forme et qui est un buteur, avec aussi cet entraîneur qui est quand même l'âme, pour l'instant, de cet Inter.
Alors, la difficulté, évidemment, c'est ce qu'a dit Thomasson, c'est que l'année dernière, ils ont fait la même chose. Donc, c'est le même début de saison, plus ou moins. Donc, on va attendre un petit peu de voir ce qui va se passer sur les semaines à venir. J'ai l'impression que la Juve, c'est vraiment au-dessus, comme d'habitude. Ouais. C'est vraiment très au-dessus.
En nombre de points, ils sont déjà loin.
Ils sont déjà loin en nombre de points. L'impact général de l'équipe sur le championnat, l'arrivée de Ronaldo, faut pas l'oublier, évidemment, monstrueux. Naples ne lâche pas, mais ça va être encore un peu juste pour contrecarrer la Juventus. Et alors, il y a l'Inter derrière, mais il y a quelques équipes aussi qui sont pas très très loin. Moi, j'attendrai de voir sur un plus long terme, parce que même ne serait-ce qu'un Icardi qui se blesserait, bah ça pourrait être un gros coup dur pour l'équipe.
Thomas, là, c'est plus une passe décisive, c'est un but à ma place. C'est ce que j'avais dit, c'est qu'il y a une Icardi dépendance, et ça, c'est pas depuis ce début de saison.
Si vous avez besoin de faire des émissions, vous m'appelez.
Non, il a marqué 8 buts en 11 matchs depuis le début de saison, mais ces dernières années, à chaque fois, c'est une vingtaine de buts. Je crois qu'il a 115 depuis le début de sa carrière interiste.
Pour avoir vu toutes les équipes italiennes qui sont censées taper la Juve, enfin, un jour, pour les avoir toutes vues là, ces derniers jours entre la Lazio, Napoli, etc., il m'a semblé quand même que le Napoli était sans doute encore le meilleur concurrent de la Juve. Mais à distance, je pense que la Juve sera encore au-dessus. Ouais. L'année dernière, ils n'ont pas été champions vite parce qu'ils ont raté complètement leur début de saison, la Juve, mais une fois qu'ils sont mis en marche, c'était terminé. J'ai peur que le 8e titre soit au bout. Enfin, j'ai peur au sens où c'est un peu lassant. Quoi.
Alors que là, cette saison, la Juve a très bien démarré. Il y a déjà 6 points d'écart entre la Juve et l'Inter Milan. C'est quand même beaucoup après si peu de journées.
Invaincu, cette équipe aussi.
Philippe évoquait le Napoli. C'est vrai que le Napoli, ces dernières années, on s'en balait toujours beaucoup parce qu'il y a du beau jeu, etc. Mais il y avait un écart qui semblait être créé entre la Juve et le Napoli. Je mets un petit peu l'Inter de côté, je fais exprès. Là, cette année, on a l'impression que l'Inter d'Ancelotti peut vraiment embêter cette équipe de la Juve sur une rencontre, sur deux, allez, si vous voulez, aller-retour.
Le Naples d'Ancelotti.
Le Naples d'Ancelotti. Ah, oui. Mais ça paraît quand même compliqué sur le long terme d'embêter la Juve. Et donc, que l'Inter également embête la Juve, ça paraît compliqué.
En tout cas, il y a un championnat.
Tout à fait.
Oui. La nouveauté, c'est que la Serie A est redevenue un championnat attrayant et désormais respecté, puisqu'en une semaine ils ont ravagé toute la France, donc du coup on s'est enfin aperçu que c'était pas juste que l'Italie n'avait pas eu 4 places comme ça par juste cadeau politique. Il y avait de la politique dessous, bien évidemment, mais ils sont non seulement devant nous, mais ils sont pas 4e. Ils sont en passe de passer l'Angleterre et de devenir 2e européen au classement UEFA. C'est pas tout à fait pareil,
et le fait que Ronaldo arrive dans ce championnat là, c'est pas
bien
rien
sûr,
c'est
bien sûr.
Deuxième buteur actuel,
quand vous avez le meilleur ou le deuxième meilleur joueur du monde, on va pas discuter pendant 3 heures là-dessus. Enfin, quand vous avez un méga monstre dans un championnat, et ben d'un seul coup, ça attire les regards. Hein, j'ai un peu la crainte que le Real perde un peu de sa flamboyance avec le départ de Ronaldo. On le voit dans les résultats, mais même dans le regard des gens. Alors, ça reste une entité absolument incroyable. Mais quand vous perdez vos plus grands joueurs, ceux qui attirent autant la lumière, bah, parfois les gens, je dis pas se détournent, regardent toujours le Real et puis vous regardez un peu plus du côté de la Juve, donc du championnat italien.
En tout cas, c'est un beau cadeau, et bien pour le tout nouveau président de l'Inter, parce que c'est un jeune homme. Alors, tout à l'heure, on parlait du fils du propriétaire à Leicester, qui a 32 ans. Celui-là, il en a 26. Son papa est en fait l'actionnaire majoritaire du club de Milan désormais. Il remplace l'Indonésien qui avait vendu ses parts, Eric Thohir, qui était là ces derniers temps. Et il y a 4 jours, il avait posté un petit message sur la page du club l'Inter Milan. Steven Zhang, il s'appelle, il parle en anglais et il dit « I'm ready and you ». Et justement, 4 jours après, cette équipe gagne à Rome et cette équipe se retrouve sur le podium.
Il a quadruplé la prime, paraît-il.
En tout cas, c'est ces jeunes Asiatiques qui arrivent. Est-ce qu'ils s'y connaissent finalement ou est-ce qu'ils sont là? C'est la figure du club. Philippe, salut, je vous regarde parce qu'en Angleterre, il y en a plus peut-être.
Oui,
j'avoue que j'en sais rien. S'ils connaissent le foot, j'en ai aucune idée. Ce qui est sûr, c'est qu'ils
sont bien secondés.
En Asie, il y a une passion considérable pour le foot, notamment pour le foot anglais en premier lieu, mais aussi pour la Liga et la Serie A derrière. Il y a une passion et la France essaie de s'accrocher d'ailleurs, notamment en Chine, en ouvrant un bureau là-bas, un bureau vraiment commercial et pour développer la promotion de la Ligue 1. Mais il y a beaucoup de retard.
La Ligue des talents.
Il y a beaucoup de retard parce que ils sont passionnés de foot, mais du foot d'ailleurs. Je ne sais pas s'ils sont passionnés de jeu. Je ne sais même pas s'ils sont passionnés de leur propre championnat. C'est un peu étrange.
Ils sont passionnés par les stars européennes, etc., par les symboles que ça peut dégager. Mais effectivement, comme vous le dites très bien, est-ce qu'ils sont vraiment passés par le foot chinois même, etc. C'est autre chose.
C'est la fin déjà de ce Radio Foot.
Oh bah c'est passé vite.
Merci beaucoup, messieurs. Merci mille fois. Merci aussi à Louis Lafargue qui m'a aidé à préparer l'émission. Julien Magoharou était aujourd'hui à la réalisation et on vous dit à demain. RFI.